l'oreille cassée. L'oreille cassée. L'oreille cassée. L'oreille cassée.
Laurencine et ses amis vont vous faire vibrer.
L'oreille cassée. L'oreille cassée. L'oreille cassée. L'oreille cassée.
Claude, Jean-Michel, Gilles et Sébastien vont vous faire crier.
L'oreille cassée. L'oreille cassée. L'oreille cassée. L'oreille cassée.
Yes, yeah, oui, ouais. C'est l'oreille cassée, l'émission Super Rock des 3 hits de la Grenouille. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et ce soir nous sommes accompagnés de Bob Passion. Bonsoir Bob.
Bonsoir.
Content que tu sois là avec nous dans le studio. On va passer une heure ensemble à écouter plein de bonnes choses. Et puis Bob va nous faire découvrir ses projets. C'est ses réalisations, on va dire, que tu as faites ces dernières années au Cambodge.
Voilà, oui.
Du rock cambodgien.
Bah, ou du rock français fait au Cambodge, on va
du
dire.
Du rock français fait au Cambodge, c'est pas beau ça. Hein, voilà, donc c'est l'oreille cassée, l'émission Super Rock des 3 de la Grenouille. On est ensemble jusqu'à 20h, comme je le disais. Et on va commencer par le disque de la semaine avec des Suisses. Des Suisses. Alors, les
c'est
Suisses.
Pas la première fois qu'on a un disque de la semaine suisse, hein, il me semble.
Oui, mais j'adore les groupes suisses. Et puis en plus, ils ont des noms improbables. Alors cette fois-ci, il s'appelle Greg Duke.
Ouais.
Ouais, donc je vais pas peut-être même pas bien prononcer Duke.
Question super nom, Laurent. Il y a un magnifique label en Suisse qui s'appelle Kaka Kids.
Voilà, bah donc ils ont.
J'adore.
Voilà, les noms improbables, ça vient de Suisse. Et la Suisse, ces dernières années, nous servent des groupes excellentissimes. Et là, cette fois-ci, c'est Greg Duke. Il ne déroge pas à la tradition helvète d'être excellent. Hein, c'est-à-dire. Alors, c'est un trio. Ils ont déjà publié un premier album qu'on avait déjà joué dans l'oreille cassée. Et on connaît le chanteur parce que c'est Robin Giraud de Mama Rosine. Alors, Mama Rosine, je ne sais pas si tu connais de ton pays lointain du Cambodge. Bob. Alors Mama Rosine, c'était un groupe suisse qui faisait du rock cajun. Mais du rock cajun à la sauce punk, et c'était excellentissime. Bon, là,
tu l'as déjà passé dans l'oreille cassée, Laurent.
Ah oui, mais ça, j'étais fan. Ouais. Ah, j'étais fan. Même à une époque, on faisait les disques, les nénuphars. On l'avait sélectionné comme nénuphar à la FNAC.
Ouais, Sébastien, il s'en souvient bien.
Ouais, il s'en souvient, mais il nous fait oui, comme ça de la tête. Ouais, Sébastien était à la technique. Hein, j'avais oublié de le présenter. Il était avec Chloé. Coucou, Chloé. Alors, ça serait bien que vous inversiez. Chloé, prends la technique. Parce que franchement, avec Sébastien, tous les soirs, on a des millimélos. Voilà, donc, on écoute Greg Duke, j'ai trop parlé. Allez, c'est parti, c'est le disque de la semaine et avec un excellent single qui s'appelle Frelon.
I try to love you back.
premier single, voilà, donc des Duke, Grey Duke, donc extrait de l'album qui s'appelle Traffic Jam. Et c'est vrai que c'est, il porte bien son nom cet album, parce que c'est un album, en fin de compte, si on le met en vinyle, c'est un double vinyle, il y a plus de 26 morceaux.
Ah oui,
et chaque face sont rangées par thème, alors où ils se répartissent un petit peu leur influence, hein, et c'est vraiment bien bien fait, c'est fabuleusement réussi. Voilà, donc c'est sorti chez l'excellent label Kabash Records, là aussi qu'on a un label qu'on défend ici dans l'oreille cassée. Voilà, on continue, on enchaîne, on en a plein plein de nouveautés à vous présenter, et notamment je me tourne vers Eric qui est venu avec plein de Skuid.
Ouais.
Ouais, et notamment.
Exactement. Bonsoir les amis.
D'abord. Et voilà, ouais, bonsoir Eric. Et tu nous as. Voilà, qu'est-ce que tu nous as apporté?
Alors, je vous ai apporté le nouvel album de Paramount Styles. Donc, j'ai déjà présenté cet album, ce groupe, il y a quelques mois dans l'oreille cassée. C'est un groupe qui est pour moi injustement méconnu. C'est le groupe du leader Scott McCloud, qui est le chanteur de Girls Against Boys. Donc, qui est un groupe quand même relativement connu.
Oh là là, c'est vieux ça.
Oui, c'est un groupe mythique aux États-Unis, hein, c'est un groupe quand même très connu.
Bon, oui, mais qui avait
dans la scène underground.
Ils avaient un succès ici à Marseille.
Oui, bien sûr, c'est un groupe. Voilà.
Je me rappelle à l'époque, ils avaient à l'époque de Fugazi, etc.
Exactement, exactement.
Tu t'en souviens de ça, cette scène avec Fugazi.
Fugazi, je me rappelle.
Ouais, qui jouait. Voilà. Et les Girls Against Boys,
c'est un super groupe qui a sorti plein d'albums. Enfin, ils sont toujours en activité d'ailleurs. Et ça, c'est le projet parallèle de Scott McCloud. Donc, je crois que c'est leur troisième album. Et il n'y a absolument aucun succès, hein. Ils vendent absolument que dalle, on les voit très rarement, il est super papy dans la presse, pourtant ça décolle pas. Et là, le troisième album, il est signé sur un label tchèque. Un label tchèque qui s'appelle Silver Rocket.
J'ai eu peur Chloé, je vois derrière la vitre qui commence à toucher les boutons. Je me suis dit, ça va être la catastrophe. Non, mais c'est pas vrai. Chloé, qui est nouvelle stagiaire, ingénieur du son, qui va remplacer Sébastien dans les semaines qui suivent ici dans l'oreille cassée.
Dans l'oreille cassée.
Hey, nous, qu'est-ce qu'il veut Chloé? Tout le monde lève le doigt. Bon, allez, je t'ai interrompu, je dis connerie, allez, vas-y.
Non, voilà, et c'est un album qui s'appelle Distant Karma qui vient de sortir, et le titre que j'ai choisi, c'est Light Up The Sky, donc on va écouter ça tout de suite avec la voix fabuleuse de Scott McCloud, c'est Paramount Styles de New York.
C'est parti.
Christmas, tell me what you gonna get me. No, don't tell me, make it a surprise. Everybody's rich and famous, riding in gold elevators. Don't remember learning wrong from right. Let's make history flow. Tell me it's your favorite movie, playing somewhere so far out of sight. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Happy birthday, Merry Christmas. What we do ain't no one's business. No more darkness coming to the light. What can you get for someone who's gotten everything and nothing, floating far above it all tonight? Let's light up the sky. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Yeah, heads of the world unite. Tell me something funny, make me laugh and keep it. Show me, tell me how it's always gonna be.
The Soft Moon, un groupe d'Oakland en Californie. Et c'est leur nouvel album, ça vient de sortir. Sur le label Sacred Bones, qui est assez connu. Il y avait un groupe comme The Man aussi, assez carton. Et voilà, je voulais vous faire partager ça parce que moi j'aime beaucoup cet album. Il y a beaucoup d'influences des Cure, beaucoup d'influences années 80. On était en train de discuter
Cold
aussi.
Cold Wave.
Hein, ouais, Cold Wave. On était en train de discuter de la batterie, savoir si c'était une boîte à rythme ou une batterie électronique. Pour ma part, je pense que c'est une boîte à rythme.
Bon, non, mais il y a des batteries électroniques. Ouais. Des batteries électroniques qui reproduisent le son aussi. Ce son un peu comme ça, bon, très orienté. Bon, voilà, on est vraiment dans les années 80 dans le son de
ça. Ah ouais, complètement. Ouais. Et pourtant, c'est un groupe d'Oakland en Californie.
Ouais. Et voilà. Voilà, donc Soft Moon, nouveauté dans l'oreille cassée. Merci.
Un morceau qui s'appelle Young.
De nous faire découvrir toutes ces musiques que je n'écoute personnellement pas.
Voilà, bah c'est...
Non mais sérieux, mais c'est ça.
C'est ça l'oreille cassée.
C'est ça l'oreille cassée, c'est d'avoir un petit peu cette ouverture. Bob, tu viens du Cambodge?
Oui.
Tu es resté combien de temps là-bas?
Je suis resté 15 ans.
15 ans. Et est-ce que tu as pu suivre un peu l'actualité musicale ou tu t'es coupé complètement par rapport à tout ce qui se faisait un petit peu en Occident?
Non, disons que j'ai gardé le contact avec la scène marseillaise parce que c'est les amis de longue date, donc je sais à peu près ce qui s'est passé ici en groupe et en disque sorti, puisque chaque fois que je repassais...
C'est bon, et tu refaisais un peu le plein, quoi.
Oui, je refaisais le plein, et puis bon, voilà, j'ai gardé quand même des contacts avec plein de monde ici. Maintenant, sur ce qui est la scène nationale, non, en tout cas, le peu de contacts que j'ai, c'est ce que je peux voir à travers, on va dire, les chaînes internationales françaises. Et non, j'ai rien vu de nouveau, quoi.
Et comment ça se passe? Donc, tu me dis, par exemple, la télé, qui est une source d'information, et puis après, Internet, bon, ça fonctionne comme ici, quoi.
Oui, tout fonctionne comme ici. Enfin, après, sur 15 ans, la modernité, c'est pas la même.
Quand tu es arrivé, il n'y avait rien, quoi.
Quand je suis arrivé, c'était, oui, il y avait une tirette pour carte bleue dans toute la ville où j'habitais, tu vois. Après, ben, c'est des choses qui sont modernisées maintenant. Après, c'était pareil pour Internet. Il fallait aller au bureau d'Internet où 2 heures par jour, le truc fonctionnait.
Ouais, ouais.
Voilà, maintenant, non, tout le monde est en 4G.
Voilà,
maintenant,
et relié au réseau mondial.
C'est l'Asie qui arrive à toute allure. Ça n'arrive plus rien à voir avec l'Europe.
Samsung qui nous fait, voilà, qui fait nos PA là-dessus.
Mais tout le monde est là. Hein, tout le monde est là. Tout le monde est là.
Même les Américains.
Tout le monde est là.
Voilà, Bob, Bob Passion, hein, qui est ici, qui est un vieux de la vieille de la scène marseillaise.
Hein. On peut dire,
quelque part. On peut dire, puisque tu étais aussi... Pour récapituler un petit peu tout, tu as tenu quand même un endroit...
Mythique.
Mythique.
Donc, j'étais programmateur au Balthazar.
Au Balthazar. Tu es retourné dimanche
dernier? Eh bien, voilà, j'y suis allé dimanche dernier, mais c'était plein. Alors, bravo, parce que c'est quand même rare que ce soit sold out
Dimanche soir.
Un dimanche soir, donc au Molotov. Et donc j'ai pas pu rentrer, mais j'y retourne. Comme c'était assez émotionnel pour moi, j'y suis pas rentré depuis qu'on s'était fait fermer. Donc comme c'était émotionnel, bon ben j'étais content d'aller voir les copains qui jouaient là-bas, parce qu'il y avait les cowboys qui jouaient.
Et les cowboys, ouais, Michel.
Voilà. Et puis, mais sinon je suis pas encore rentré dedans.
C'est pas encore.
Je me réserve, je vais y aller tranquillement.
Tu vas y aller, voilà, faire un petit peu un retour aux sources, voilà. Voilà, on enchaîne avec. Alors on va changer complètement de registre. Cette fois-ci avec du blues, mais du blues punk, on va dire. Vous connaissez un groupe qui s'appelle, je pense pas, Bob, que tu connaisses, mais toi peut-être, Eric, The Daddy Long Legs.
Ouais, le nom me parle, mais...
Alors, c'est rigolo comme nom, hein, les Papa Long Jambes. Hein, Papa Long Jambes. Alors c'est un trio de punk blues qui vient de New York et qui ont sorti un paquet d'albums sur un label de punk aussi qui s'appelle Norton Records. Et pour débuter l'année 1918, ils sortent un single avec deux titres qui sont fabuleux sur ce single. Enfin, il y a deux faces, hein, bien sûr, c'est un 45 tours. Avec Walter Daniels. Alors Walter Daniels, c'est un super harmoniciste considéré un peu comme le digne successeur de Little Walter ou de tous ces bluesmen de Chicago là, et donc ou Junior Wells par exemple, et il a officié dans de nombreux projets, notamment toujours dans cette veine un peu punk blues, alors si je dis les Oblivians, les 68 Comeback, etc. Voilà, donc on les écoute, c'est Walter Daniels et The Daddy Long Legs, donc avec ce single qui transpire le blues. Allez, c'est parti. Yeah! Yes, voilà, donc encore du blues dans l'oreille cassée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un petit peu du blues et du blues actuel, et notamment alors, le blues que j'aime, hein, c'est vraiment ce qu'on vient de diffuser. Et là, c'est Johnny Walker. Alors, Johnny Walker, il y en a beaucoup qui connaissent parce que il faisait partie du trio, l'excellent trio qui s'appelait les Soledad Brothers. Et donc, tu as quelques mots là-dessus sur cette appellation Soledad Brothers.
C'est un nom politique en fait, hein. C'est un choix fort en termes de nom de groupe, puisque les Soledad Brothers, c'est trois blacks américains qui ont été incarcérés à la prison de Soledad en Californie en 1970 et qui ont été abattus par la police, dont le plus célèbre est George Jackson, qui est resté un héros, hein, du mouvement noir américain, qui a écrit son autobiographie en prison aussi, qui était quelqu'un d'assez extrémiste, mais qui n'a jamais pris les armes, hein, qui a juste lutté pour la cause, hein, qui était proche des Black Panthers, qui était proche de l'armée de libération noire américaine. Et voilà, il a été abattu en prison. Je crois que son frère aussi a été abattu en prison. Et les trois sont morts à Soledad. Et c'est resté une icône de la lutte noire américaine. Voilà, George Jackson, moins connu que Malcolm X et que Martin Luther King, parce qu'il est mort très jeune en fait. Hein. Il est mort à 20 ans. Il n'a pas eu le temps d'être reconnu sur la scène mondiale, mais c'est resté une icône de la lutte noire américaine.
Voilà, donc d'où ce nom, Soledad Brothers. Donc c'est un groupe qui officiait dans les années 90, début des années 2000, à Détroit. Qui a été un petit peu à la base du revival garage rock qui avait à Détroit, notamment avec le White Straps, etc. Voilà, donc, alors Johnny Walker, il a pioché dans sa collection d'archives enfin de 78 tours pour publier ce mini LP de 6 chansons où il a recopié note pour note ce qui se jouait à l'époque. Et donc on y retrouve des chansons de Joe Williams qu'on vient d'entendre, de Jimmy Reed ou de John Lee Hooker, de Jackie Brenston et Brenston notamment, avec le Rocket 88 qui est considéré comme un des premiers morceaux de rock'n'roll de l'histoire. Voilà, bien qu'il y avait le rhythm blues aussi noir américain auparavant.
Ouais,
voilà. Donc il est accompagné d'un contrebassiste qui s'appelle Paul Broom, et il faut revivre avec brio ces perles du blues notamment qui étaient enregistrées en 78 tours. Allez, on va monter un petit peu le son là. Ce qu'on appelle du hip-hop cambodgien, hein, c'est peu ça, Bob.
Ah, je sais pas où vous lire.
Voilà, donc ça fait partie du CD que tu as mené, donc du CD de Kanlat Rick Rier.
Voilà, Kanlat Rick Rier, ouais.
Ouais, qui était un groupe que tu avais monté là-bas au Cambodge.
Voilà, oui, avec une bassiste cambodgienne, un batteur français, et puis moi, la guitare et au chant.
Voilà, un trio de punk pop.
Voilà, punk pop, ouais, parce que voilà, c'était pas du punk grinçant.
Alors, qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que t'as foutu pendant 15 ans au Cambodge ?
Moi, je suis arrivé au Cambodge avec le projet phare, le projet du cirque, qui était d'essayer de remettre les enfants de rue dans une voie scolaire, donc en passant par le cirque pour aller jusqu'à l'école. Voilà, donc puis l'expérience étant marrante, on a monté une équipe de théâtre de rue et de théâtre d'ailleurs qui faisait de la prévention pour le sida, pour les mines, pour enfin voilà tous les problèmes sociaux, les gens ne sachant pas lire. C'était intéressant de passer par le théâtre et par le cirque pour communiquer. Pour passer les messages.
Et comment c'est parti cette histoire ? Parce que de partir avec ce projet qui s'est construit.
C'est un projet qui existait déjà, qui était, on va dire, dans son premier stade de développement. Le cirque fonctionnait. Maintenant, ceux qui n'étaient pas très bons au cirque, il fallait trouver une autre solution, faire quelque chose avec eux. Donc, ben voilà, on a monté cette équipe de prévention lors du Awareness Theater, c'est du théâtre de prévention. Quoi.
Alors le théâtre, il y a une tradition du Cambodge au théâtre ?
Pas vraiment, c'est-à-dire le problème avec le Cambodge quand on parle de tradition, c'est que la tradition a été effacée par les horribles aventures qu'ils ont eues pendant 40 ans, parmi lesquelles ils ont eu Pol Pot, qui a vraiment coupé tout de la culture, il fallait être un paysan et c'est tout quoi.
C'est-à-dire que le Cambodge a connu une histoire un peu
tragique et violente.
Ouais, des années 60, il y a eu la guerre du Vietnam, hein, enfin, la guerre de décolonisation, la guerre du Vietnam, et puis après il y a eu
Pol Pot, un assassin qui a tué une personne sur trois dans le pays.
Dans le pays, donc qui a voulu tout effacer, etc. Et quand tu es arrivé comme ça au Cambodge, comment c'était à l'époque ?
Ben bon, moi je suis arrivé en 2003, donc c'était cessez-le-feu, hein, ça faisait la première année de cessez-le-feu. Par contre, le pays était quand même, on va dire, pacifié pour les grandes villes déjà depuis 10 ans, donc ça fonctionnait presque, on va dire, ça fonctionne, ça commençait à ouvrir les portes.
Et tu t'es installé où alors ?
Donc moi je suis arrivé au cirque, donc je me suis installé dans la ville où il y avait le cirque.
C'était quelle ville ?
C'est Battambang, à la frontière de Thaïlande. Voilà, c'était les enfants du cirque, c'était surtout des enfants qui venaient des camps de réfugiés en fait. Hein. C'est des enfants qui avaient grandi dans le camp de réfugiés avec ou sans parents, avec la complexité de retrouver qui est qui vit avec qui et qui est l'enfant de qui. Voilà, donc le projet de cirque existait déjà. Moi, on m'a demandé. Je travaillais sur le même projet au Brésil juste avant.
Ah, d'accord.
Donc, on m'a demandé si c'était possible de faire une jonction avec
c'était
eux.
C'était quoi ? C'était une organisation non gouvernementale ? Donc, vous étiez financé comment ?
Non, complètement. Oui, complètement. C'est des Français qui sont allés là-bas, qui ont flashé sur ce cirque. Alors, je peux citer, hein, puisque c'est des gens qui font partie du spectacle en France. Et les cousins, un groupe de cirque, qui ont été les premiers à aller là-bas et à dire waouh, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et donc, avec Clown d'ici et d'ailleurs, ils ont monté les structures et ils font tourner. Donc on monte les spectacles au Cambodge et on essaie de les faire tourner en Europe avec un tas de gens ici qui vont faire du volontariat pour arriver à produire,
La tournée. Voilà. Les spectacles de la tournée. Et donc voilà, tu es parti pour 15 ans d'aventure.
Moi, j'étais pas parti pour 15 ans, moi j'étais parti. J'étais parti pour voir et puis voilà, le Cambodge c'est un endroit vraiment...
Ça passe vite, hein.
Bon, c'était le Far West.
Ouais.
Moi, j'avais envie d'un peu de Far West, quoi. C'était vraiment le Far West. Là, c'est en train de devenir un truc plus développé.
Far East.
Far East.
Oui, le Far East, oui. Enfin, voilà, c'était vraiment... Moi, je dirais, je suis arrivé quand c'était vraiment punk rock'n'roll, quoi. Et là, on va dire que c'est en train de devenir trash. Donc, voilà, c'est... Tout arrive, quoi, ça y est, la consommation est là, ouais. Les téléphones sont là, ouais, tout le monde est là, ça y est.
L'influence, comme tu disais au micro tout à l'heure, l'influence sud-coréenne, maintenant,
L'influence chinoise qui est énorme, puisque ouais. C'est nos voisins les plus proches, ce sera sans doute le prochain occupant du Cambodge va être chinois.
Bah oui, donc l'influence chinoise, ouais, donc ça fait partie de cette ère de puissance où s'étend la puissance chinoise, voilà, cette ère géographique.
Oui, et puis alors en Asie, quoi, c'est-à-dire le développement, il passe de 0 à plus 7 points, quoi, et ça va à une vitesse.
Et c'est un pays atelier, le Cambodge, aujourd'hui. Donc,
un pays
atelier, c'est-à-dire que bon, dans la mondialisation, ils produisent tout ce que.
Ah oui,
ce qui fait le développement.
Je mets d'air de marque, mais beaucoup d'efforts. Les trains que vous portez ici sont fabriqués au Cambodge.
Tu en as ramené un petit peu dans des valises, un petit peu
Non, parce que c'est les mêmes, c'est les mêmes au même prix, quoi.
Allez, on parle un peu musique, parce que c'est l'intérêt aussi de cette émission. Tu as monté des projets aussi musicaux en parallèle.
Voilà, en parallèle, bon, pour s'amuser et puis aussi pour passer le temps. Voilà, on a monté des groupes de rock. Elle a eu une scène rock qui a commencé à ce moment-là à peu près, puisque.
Et qui était l'initiateur.
Je suis pas l'initiateur.
Bon passion, mais... oui.
Je suis pas l'initiateur.
Non, mais... il est humble, il veut pas le dire.
Non, je suis pas l'initiateur, mais je fais partie des gens qui sont restés un moment là-bas, parce que entre les gens qui passent un moment, qui font un truc pour un an ou deux, et puis ceux qui restent 10 ans, 15 ans, c'est pas le même rapport qu'on a ni avec les gens, ni avec aussi la vie de tous les jours. Ouais. C'est-à-dire monter un festival de musique ou voilà, ça on peut le faire que si on est là pendant longtemps. Quoi.
Est-ce qu'il y a des studios aujourd'hui qui existent au Cambodge où des groupes peuvent aller enregistrer et...
Alors oui, bien sûr, il y a des studios. Après, le truc, il est vraiment différent d'ici parce que ici, c'est pas tout le monde sur le même pied, mais tout le monde peut faire son disque et c'est le produire, c'est un seul et même circuit. Là-bas, il va y avoir le circuit vraiment commercial. C'est-à-dire vraiment
la variété
où vraiment ils sont nationalistes au niveau de la culture, hein, donc la musique étrangère arrive très peu en dehors de la Korean pop et puis bien sûr des inévitables trucs disco techno, je ne sais comment on dit, à tendance hispanisante là qu'on entend dans le monde entier.
Autrement, ça a commencé par les Gypsy Kings.
Oui, non mais là moi, je parle d'un truc encore plus hybride, hein.
Ouais. Et donc, tu as monté des groupes et tu as produit des disques. Alors.
Voilà, oui. J'ai fait au Cambodge, j'ai fait. Bon, ben là, il y en a deux de disques plus alors, un qui n'est pas là.
Alors, deux de disques qu'on peut découvrir. Donc, on va découvrir ce soir à la radio, mais on peut aussi télécharger sur un site.
Voilà, pour celui des Camps de la Tricriée, Les Joyeux Cafards, il est en musique libre, téléchargé sur mon site.
Bobpassion.net.
Voilà, oui. Il y a beaucoup d'images, il y a pas mal pour se promener sur le site.
C'est une sorte de blog.
C'est un blog.
Mai 2007, tu le tiens.
Voilà, oui, depuis deux ou trois ans après que je suis arrivé au Cambodge, j'ai commencé à compiler.
Est-ce qu'il existe à Phnom Penh des magasins de disques où tu peux aller trouver les nouveautés européennes ou américaines?
Ah non, absolument pas.
Non, pas du tout.
Absolument pas. Après, okay. Par contre, ce qu'il existe vraiment au Cambodge, c'est qu'il n'y a pas de copyright. Donc
okay,
c'est pour ça que c'est difficile,
c'est des pirates,
aussi de... Oui, c'est que du pirate.
Ah, okay.
Mais c'est même du vrai en fait, puisqu'ils sont imprimés ou fabriqués en Thaïlande. Et au lieu d'en tirer 12 000, ils en tirent 15 000. Et après, il y en a 3 000 qui traînent sur le marché.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais voilà, c'est pas une valeur, ça pas une valeur comme ici. La culture, vraiment, c'est quelque chose de différent.
Comme c'était en Turquie, en Europe, il y a une vingtaine d'années. C'était ça aussi. Ouais.
C'est encore plus underground. Hein.
Ouais. Oui, bien sûr, j'imagine.
Il y a une star, on va dire, une vraie star au Cambodge, un mec qui compose et qui fait de la musique et qui en vit vraiment. Je pense qu'il n'y en a qu'une qui en vit vraiment. Il s'appelle Prim Savat et lui, bon, bah, il est de tous les coups. Et lui, quand il fait un disque, il est protégé, son disque.
D'accord.
Mais le lendemain, tout le monde l'a déjà dans le téléphone. C'est impossible. Il n'y a que la scène là-bas qui peut.
Bon, bah voilà, bah, on retrouve un peu à notre manière moins anarchique, mais ce qu'on retrouve en Occident, hein, aujourd'hui, avec les téléchargements gratuits, le piratage, etc.
Bah, oui, bah, après, au Cambodge, c'est tellement un truc qui fait partie de la manière de vivre, quoi.
Ouais.
C'est. Voilà. Le magasin de disques te vend la version officielle avec le tampon et puis la version.
Le marché parallèle à 10
avec
mètres.
Avec la pochette photo. Copier dans le même magasin.
Alors, parle-moi un petit peu de ce groupe là que tu nous as mené, Kanlat Rikrie. Alors, tu m'as dit que c'était un trio tout à l'heure, donc il y avait une bassiste cambodgienne,
un batteur français, puis moi qui suis marseillais, donc bah, français aussi un peu.
Bah, français un peu, on va dire un peu les deux, quoi. Et comment c'est venu l'idée d'enregistrer?
Oh ben bon,
c'était parce que
voilà, on n'arrêtait pas de jouer. De toute façon, le truc il est que tu vois, quand tu es pionnier dans quelque chose, eh ben c'est toujours toi qui es devant, quoi. Tu vois, il y a que toi. Enfin, il y a pas beaucoup de gens qui font des choses. Donc dès que tu fais quelque chose, ben t'es projeté vers l'avant. Donc voilà.
C'était l'avant-garde, quoi.
Voilà. Et donc c'est vrai, la scène, on se la partageait avec les trois groupes. Donc à l'époque, c'était nous les rois du rock'n'roll.
Les rois du rock'n'roll. Et quelle était la réception? Comment ils recevaient ça, le public, quand vous jouez, etc.
Bon ben le public, pas très concerné, sauf moi je chante des chansons en khmer, bah, pas celles qu'on va passer là, mais je chante pas mal de chansons populaires en khmer en les faisant un peu à la punk rock. Alors ça remplit.
Et là quand tu
chantes, après dès que je fais un truc rock'n'roll en français, hop, tout le monde repart. Il faut que je remette une cambodgienne derrière.
Ah, donc c'est tout un art
pour tenir la main. Il faut bien calculer les programmations quand on fait des concerts au Cambodge.
Alors dans ce CD il y a des reprises.
Oui, il y a des reprises, oui.
Et voilà. Là, c'est toi qui as choisi les morceaux, hein, donc de Kanlat Rikrie. riait. Bon, les Cambodgiens et moi, on fait deux. Hein. Et donc, Michel.
Déjà, l'anglais, c'est pas facile.
Michel, voilà, c'est un clin d'œil. Entre-temps, il est mort, mais c'est un clin d'œil à un chanteur des années 70, quand même, qui nous a fait pas mal rigoler. Voilà, c'est
Michel Delpech.
Michel Delpech, on peut le dire.
On écoute ça. Voilà, on écoute du rock cambodgien ici, dans l'oreille cassée, avec un hommage, c'est ça ?
Oh, oui, moi, je considère que c'est un hommage. Hein. Y a pas de...
À Michel Delpech. Et voilà, donc, avec Bob Passion au chant, c'est parti.
Oh Michel, mais arrête, mais c'est plus pour nous ça. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu. Pour un flirt avec toi, je ferai des folies pour arriver dans ton lit. Pour un flirt avec toi, autour, un petit tour, au petit jour. Michel, viens rentrer à l'hospice. La 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 la.
Ah, c'est frais, rigolo, c'est ce qu'on voulait. Ouais.
Ah bah écoute.
Bon, après, il voilà, y a beaucoup de chansons qui sont composées hein, dedans. Là, ouais. C'est une des reprises, il y a deux reprises dessus.
Et donc, quand Lat, Rick, Riez. Alors, je vous invite à aller sur le site de bobpassion.net. Vous pouvez télécharger ce disque.
Oui, il est gratuit. Ouais, bah, ouais.
C'est excellent. Et vous avez beaucoup fait de concerts avec ce projet.
Ben oui, parce que là, c'était vraiment le début de la scène. Tu vois, par exemple, il y a eu le premier festival qui s'appelait Penstock. Comme Phnom Penh, comme Woodstock, mais Penstock, tu vois. Et il y avait 7 groupes, mais en vérité, il y avait 3 groupes, quoi. On n'arrêtait pas de changer le genre dedans pour faire plus de groupes, parce que sinon, on ne peut pas faire un festival, quoi. Bon, les choses ont vachement changé. Maintenant, on fait un festival, il y a 26, 28 groupes qui viennent jouer. Mais bon, le truc est vraiment différent. Il y a deux... C'est difficile d'avoir des groupes cambodgiens qui font quelque chose qui ne soit pas de la reprise ou de la musique de mariage. Et c'est difficile aussi, on les comprend bien, parce qu'ils n'ont pas les moyens ni d'avoir les instruments à eux. Eux, ils jouent pour un patron qui fait des mariages, quoi. Oui, c'est du ballet, mais à la cambodgienne.
Voilà,
la plupart, ils n'ont même pas une guitare, en fait. C'est la guitare du boss du groupe, quoi.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une démarche de composer, de créer
non.
Quelque chose.
Tu vois, tu fais une, il y a 2-3 chanteurs un peu connus, là, qui font des hits. Donc, ben, tu veux les produire, et ben, tu leur téléphones, et eux, ils téléphonent à ton groupe, et ils disent, voilà, je vais jouer tel morceau, tout le monde les connaît parce qu'ils jouent sur 100-150 morceaux. Tu vois, donc ils font des mariages, ça dure 10 heures, ils jouent 10 heures, ils n'ont pas honte. Après, il y a la musique traditionnelle aussi, ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose.
Et là, là la musique traditionnelle, elle est ressortie un petit peu après, la période pompaine, etc.
Oui, bien sûr, parce que là justement, alors il y a des ONG qui ont été créées pour retrouver les instruments, refaire les instruments. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré une ONG, parce qu'effectivement, avec le cirque, je travaille avec la musique aussi. Donc, j'ai rencontré une ONG qui avait recensé les instruments au Cambodge, il restait 80 instruments dans le pays. Tout mélangé, hein, que ce soit xylophone, trompette, enfin voilà. 80 instruments. Donc à partir de là, il a fallu partir un peu en Thaïlande, retrouver les mêmes techniques, parce que c'est quasiment les mêmes instruments. Et là, bon, maintenant, il y a effectivement beaucoup d'instruments, ça y est.
C'est-à-dire
puis bon,
des
maintenant, il y a des magasins de musique, des vrais, avec du Marshall, du.
Voilà, et voilà, y a des écoles Pili, qui se sont refait un peu des conservatoires. Des
trucs non, mais alors ça, c'est pareil, c'est un truc difficile. Oui, c'est un truc qui est destiné aux riches. Si tu veux, c'est un pays qui développe, mais où il n'y a pas un passé social comme le nôtre. Nous, on a des écoles, on a des gens qui ont une intention artistique là-bas. Il y a quelques gens qui commencent un petit travail artistique, mais c'est un peu l'hallucination. Sa première peinture, il va la vendre 5 000 $. Enfin, il va marquer 5 000 $ dessus. Il n'y a pas ce rapport à l'art. C'est un truc, il voit que ça peut rapporter de l'argent comme à la musique. Tu vois, en fait, la musique, finalement, le mec, il se jetterait bien à faire un groupe pour gagner de l'argent, pas pour le plaisir de faire de la musique. On peut dire ça aussi en Europe, quelque part, mais on veut dire. Ça va être plus de la musique électronique, alors que là, les mecs prennent les instruments, apprennent de la musique, mais vraiment pour aller faire de la musique de mariage.
Et comment ça se passe au niveau du cirque? C'est aussi la même conception du spectacle?
Ben non, alors pour le cirque, on est plus exigeant, parce que c'est des spectacles qui viennent en Europe, donc il faut qu'il y ait une qualité qui soit présentable pour qu'on puisse revenir, pour qu'on puisse les faire tourner, pour ne pas perdre de l'argent à partir du deuxième tour. Quoi.
Ouais.
Donc non, il faut une qualité qui soit équivalente à celle qu'on propose. Bon, tous les gens qui travaillent sur ce projet sont des professionnels du spectacle en Europe, donc il y a une exigence au niveau du rendu. Et si tu veux, bon là, c'est une expérience qui maintenant, moi je suis arrivé, c'était la 4e année, donc maintenant ça fait 19 ans que l'histoire a commencé. Donc il y a déjà un chapiteau qui travaille complètement sur la ville touristique qui est Siem Reap, là où il y a les temples.
D'accord.
Là, il y a vraiment un chapiteau où tous les soirs, il y a deux spectacles. Et où, on va dire, maintenant, il y a une habitude des touristes étrangers d'aller voir...
Et une professionnalisation par rapport...
Voilà, c'est ce qu'on voulait. Il y a l'école qui est à Battambang, et 200 km de là, il y a ceux qui sont déjà venus en Europe, qui ont déjà tourné des spectacles, qui sont capables de proposer une qualité qui soit ferme et qui tienne dans le temps, parce que c'est bien de faire... Tu veux, moi, ce qui me choquait quand je suis arrivé et commencé à faire les spectacles, c'est les gens, ah oui, c'est bien pour des petits Cambodgiens. Non, c'est bien parce que c'est un beau spectacle.
Ouais.
Voilà, c'est ça qui est important. C'est pas parce que c'est des petits Cambodgiens ou c'est des petits enfants de rue que c'est bien. C'est bien parce que le spectacle est beau. Donc, on a cette exigence, oui. Alors, pour la musique, on a fait venir beaucoup, beaucoup de gens qui venaient en bénévole pour travailler avec les instruments retrouvés. Et il y a une très, très bonne équipe de musique au cirque.
Est-ce qu'il y a des groupes de rock européens ou américains ou enfin internationaux qui tournent au Cambodge?
Bah alors, tu vois,
ça arrive
par exemple
pas du
en
tout.
Français, tu vois, moi j'ai fait 3 tournées avec Didier Van Passe là-bas.
Ouais.
Mais c'était un projet à nous. On faisait un film. Enfin, il y avait le batteur enfin des Candlelights qui est réalisateur faisait un film et il voulait absolument faire avec Van Passe. Donc le seul moyen de faire venir Van Passe faire le film avec nous, une fois qu'il était d'accord de tourner, c'était de monter une tournée les pays limitrophes et le pays. Tu vois,
ah oui, enfin,
c'est un risque énorme. Tu vois.
Oui, bien sûr.
Et puis ça va, moi. J'ai un grand lieu, j'ai un pick-up, on l'a fait à l'ancienne, hein, tous dans le pick-up avec les fauteuils, tout le monde à l'arrière, non, c'est, voilà, tu peux le vivre. C'est beaucoup plus facile à faire des projets là-bas. Par contre, tu ne faut absolument jamais penser que tu vas gagner des thunes avec. C'est impossible.
Bien sûr.
Impossible.
Et passer toutes ces années au Cambodge, c'est une question un peu plus personnelle que je te posais, mais c'est vrai que c'est, quand tu reviens à Marseille, comme ça te faire ce grand écart de revenir. Qu'est-ce que tu as vu changer à Marseille? Qu'est-ce qui t'a...
Écoute, j'ai vraiment du mal à en parler, parce que pour moi, c'est comme si je faisais 15 pas en arrière quand je rentre en Europe. Tu vois, j'ai l'impression que cette grande liberté des... Enfin, moi, je suis un enfant des années 60, tu vois. Donc, cette grande liberté là, des années 80 et de le ton, les films, tu vois, c'est devenu, je sais pas, c'est devenu une espèce de... c'est un consensus. Voilà, moi, j'ai l'impression que vous perdez vos libertés tous les jours et vous, finalement, vous résistez plus, quoi. Ben voilà, je suis désolé de dire ça, mais
bon,
c'est vraiment le sentiment que j'ai quand j'ai en Europe.
Mais bon,
me dis, mais non, mais ça non plus, on ne peut pas le faire. Non, ça non plus, on ne peut plus le faire.
Nous aussi, on le ressent.
C'est la même analyse que j'ai avec beaucoup de choses. Et avec, effectivement, on est maintenant, on est une société de vieux qui craignent tout.
Non, ouais,
qui
ouais, peur, je ne sais pas ouais, si c'est une société de vieux, mais c'est certain qu'il y a de plus en plus de sécurité, il y a de plus en plus d'interdictions. Et je ne sais pas si c'est un cliché, mais je sais que nous, par exemple, dans nos métiers, syndicalement parlant, c'est de plus en plus difficile et on doit lutter pas à pas chaque jour pour essayer de conserver cette espèce de bulle libertaire qu'on pouvait avoir, quoi, tu vois. Et chaque jour, elle est rognée, et chaque jour, on sent qu'on perd ça, quoi. Et c'est impressionnant.
Putain,
et malheureusement. Laurent, je te l'ai dit tout à l'heure. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce que c'est l'oreille cassée ?
Qu'est-ce qui m'appelle ?
Ah non,
c'est ma mère.
C'est ta mère, Laurent, vas-y. Mets là l'antenne, Laurent.
Maman, attends, je vais la mettre.
Maman.
Allô ?
Alors, tu es toujours prêt à partir demain ?
Oui, maman. Ah, oui, maman, je suis sur la radio en direct. Et on t'écoute sur Radio Grenouille, là.
On l'aime, Madame Pommès. On l'aime. Elle est là en direct à la radio.
Oui, donc bon, mais ça va. Écoute, je te rappellerai.
Oui, rappelle-moi. Allez, ciao, maman.
C'est du grand direct.
Allez, on enchaîne. C'est l'oreille cassée, les gars.
On enchaîne avec notre groupe que tu as monté. Alors là, cette fois-ci, là, tu t'es bien avant. Bob Passion et les...
Et les Scouts.
Alors,
Scouts, ça veut dire les fous en cambodgien, oui.
Et là aussi, c'est les mêmes musiciens, c'est quoi?
Non, pas du tout. Alors là, c'est une formation, c'est un Allemand qui est à la batterie, et un Français à la basse, et puis moi à la guitare, au chant. Et puis bon, là, sur le disque, c'est une production un peu mieux faite, qu'on va dire. Hein.
Si tu as besoin de la mère de Laurent pour les cœurs, tu peux toujours demander. Il appelle.
Ça y est, je l'ai samplé.
Allez, on écoute ça sur le projet, on en reparle après. Donc, le morceau s'appelle Sexy mais monogame.
Spécial dédicace.
Hello.
Quoi?
Hi, is this the studio of the Scoots? I heard you're looking for a backup singer.
Oh yes, please, come in, mademoiselle.
Elle était tout en courbe. Elle était wababou.
Ah, ça déchire. Passion, il est
Schkoutz.
Alors, je peux pas le dire. Moi, c'est,
Schkoutz.
Il est fou, quoi.
Oui, il est fou.
Ouais, il est taré en cambodgien.
Hein. Ouais, moi, j'ai une question sur comment tu as enregistré ça, parce qu'il y a quand même le son, il déchire. Hein, franchement,
on a fait une journée RAF studio à l'ancienne. On a fait une journée RAF studio avec batterie pour de vrai, basse pour de vrai, guitare et pas les chants. Juste, d'accord. Tu vois, donner les parties. Comment serait composée la chanson, puis après, par contre, on a passé.
T'as posé les voix dessus après ?
Bien sûr, tout après, sauf la batterie. La batterie, okay. On a gardé batterie et basse. Batterie et basse, on les a gardées d'origine.
Ah, c'est le ça son, que... il est super.
Oui, le son. Et puis bon, après, on a passé un mois au mix. Et puis, on a envoyé au master, à Monsieur Jark. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Jark. De Marie Sidéral, un Marseillais, qui est sans doute le meilleur mastering man que je connaisse en Europe, en tout cas.
Voilà, donc voilà, un produit. Et là, comment on peut le trouver ce disque ?
Alors, il est sur Bandcamp.
Ouais.
Voilà, je pense qu'il est à la boutique du Massilia aussi, qui sont mes comparses et amis, chez le White Star.
Et tu peux le mettre chez le Hip Hop aussi, en dépôt ?
Oui, j'y ai pas vraiment pensé. En fait, j'aime bien le donner quand je croise les gens. puis,
voilà. Voilà, et c'est deuxième projet, hein, de deuxième projet que tu as monté, et là tu l'as appelé Fresh Punk.
Ouais, Fresh Punk, l'autre c'était Pop Punk, et puis là il fallait vraiment bien faire. Enfin voilà, c'est cette idée de refaire un truc qui soit joyeux, gay, entraînant, et puis qui soit français aussi quelque part au niveau de la manière de le faire.
Ah ouais, bien sûr, Bertrand, ça sonne comme du plastique Bertrand, punk, c'est fabuleux quoi.
C'était pas voulu, mais c'était quand même un bon clin d'œil, quoi. On avait envie de le faire ainsi, avec en plus il y a pas mal, si on écoute le disque, il y a pas mal de petites électroniques qui donnent un aspect un petit peu tcha-tcha-tcha déglingué, quoi. J'aime bien, voilà. Je suis content de la production de ce disque.
Tout à l'heure, tu parlais de Didier Lampas, tu es l'enfant des années 80.
Complètement, oui. Pour moi, quand je parle de punk, c'est bizarre. Je vois pas des gens avec des crêtes et les dents serrées. Je vois plutôt des mecs habillant toutes les couleurs qui déconnent, quoi. Oh, ouais. C'est un peu une vision.
Ça remonte quand j'habitais à Lille, au début des années 90. Ça a été une des grandes claques, mais je connaissais pas les Vampas. Et on se retrouve à Ménilmontant, tu sais, sur les bars, les trucs comme ça, et on rentre dans un bar et ils jouaient.
Ah, c'est un
et
fou,
donc,
hein.
À l'époque, il y avait Marc Police, donc juste avant qu'il décède.
Ménilmontant.
Ouais, début des années 90. Tu sais, les Belleville, quoi.
À Paris.
Et je vois les Vampas, mais une claque.
Ah, les Vampas, c'est quelque chose, hein.
Oui,
c'est quelque
chose. Mais c'est l'époque, ils étaient jeunes, quoi. Ils avaient une trentaine d'années, quoi. Donc c'était quelque chose, mais vraiment, ça avait été une déflagration totale.
Et ça reste, parce que moi, les deux tournées, trois tournées que j'ai fait avec Didier, c'est un mec, il est incroyable, il a une énergie, il est toujours là, quoi.
Il est toujours là, et
il est toujours là, il est toujours à fond, que ce soit pour. Et lui, par exemple, les concerts en direct avec le Cambodgien, il les a secoués. Hein.
Et quand tu étais programmateur, tu as réussi à les faire passer un petit peu sur Marseille ou tu avais.
Non, pas du tout, parce que bon, à l'époque, Balthazar, c'était plus dédié. On a fait beaucoup, beaucoup de concerts, hein, ouais. C'était énorme. Mais c'était plus dédié à. Ben voilà, peut-être Vampas aurait pu passer dans le cadre d'une tournée où il était déclassé un dimanche soir où il ne savait pas où dormir, tu vois, mais voilà. On n'avait pas les moyens de produire ce genre de groupe. Par contre, il est passé, tout le monde quand même, hein. Tous ceux qui après ont bien marché dans l'underground sont passés par le Balthazar à un moment donné.
Le Balthazar, c'était...
Passé un paquet d'années quand même, que ça a duré l'histoire.
Qui est devenu maintenant le Molotov. Comme on en parlait, en début d'émission. Voilà, donc il est 19h56, ça se termine et on va finir par l'anniversaire.
Ouais, c'est les 50 ans de la sortie de White Light, White Heat du Velvet Underground, un disque absolument mythique, un groupe mythique, et un disque qui est sorti en janvier 1968, qui est sorti sur le label MGM, qui est resté aussi un album à l'époque confidentiel, hein, puisque le Velvet a été découvert plus ou moins par la suite, hein, et a été popularisé entre autres par Bowie et compagnie. Et de leur vivant, il y a eu très très peu de succès. Et ça, c'est un album, c'est l'album La Pochette est Noire. Donc c'est l'album assez noise, hein, du Velvet, qui a strictement rien à voir avec l'album suivant où John Cale était déjà parti. Mais c'est un album quand même absolument fabuleux que tout le monde devrait écouter. Et là, on va passer à un titre qui s'appelle Here She Comes Now, qui est un album... Bon, pour le format radio de l'oreille cassée, ça va bien parce que c'est un album assez court. Sinon, il y a des morceaux de 14-15 minutes bon, qui sont évidemment impassables en radio. Mais on va s'éclater, on va écouter ça sur 45 tours. Here She Comes Now sur le label MGM, c'est le Velvet Underground sur l'album White Light White Heat.
Alors pour finir l'oreille cassée, merci à Bob.
Ben merci à vous.
Merci à Bob d'être passé. Voilà, donc,
merci à Chloé, l'émission de Tiran,
Cham Ripsou, Pekroy Chuknir.
En plus, on avait fait ça.
Alors, on n'est pas le mieux anglais que toi.
Allez, bye bye. Et merci, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao, on vous embrasse. Ciao, les gars.
Ever, 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 na 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 na. It's ever, ever, ever.